Paso doble.
Paso doble.
Lundi, livre.
Bonjour tout le monde, bonjour Michel Pierre, ravi de vous retrouver à ce micro.
Bonjour.
Alors vous êtes historien, vous avez été aussi diplomate, on en parlera, mais précisons ce matin que vous êtes l'un des créateurs du musée du bagne en Guyane. En plus, vous publiez chez Thaïlandier Le temps des bagnes 1748-1953. Vous analysez les transformations et évolutions sociales, politiques et même culturelles de la France en quatre siècles à travers l'histoire des bagnes. L'histoire des bagnes, donc, Michel Pierre. Alors, on apprend plein de choses, comment les bagnes apparaissent après la suppression des galères, comment ils s'installent dans les trois grands ports maritimes français, et comment ces bagnes vont fonctionner durant toute cette période. Mais avant de vous entendre parler de cette histoire, vous qui avez consacré de nombreuses années, justement, pour écrire ce livre, alors, on apprend tout de suite des choses incroyables, à savoir le terme de bagne, d'où il vient.
Oui, ça reste un petit mystère, mais enfin on pense que cela provient de lieux où les pirates barbaresques enfermaient leurs prisonniers chrétiens faits sur la Méditerranée, et une partie d'entre eux était enfermée dans les anciens thermes romains de Constantinople, donc dans les anciens bains romains. Bain aurait donné bagno, qui a donné bagne, et qui est un terme effectivement qui est utilisé dans les textes à partir du XVIIe siècle. Mais on peut aussi penser qu'il y a une source en langue arabe voulant dire simplement un bâtiment, une racine, et le bagne, c'est le bâtiment. Alors le bâtiment, la prison où l'on met ces chrétiens qui ont eu la malchance de rencontrer des pirates barbaresques
et
qui sont enfermés dans ces lieux.
Et ça marche dans les deux côtés, vous dites, Michel Pierre, c'est-à-dire vous dites que ça désignait effectivement les lieux d'enfermement des esclaves chrétiens dans les pays musulmans de la Méditerranée, mais aussi ceux des Mahométans en pays catholique.
Ah oui, parce que c'était une activité qui était largement partagée par les tenants des deux religions. Évidemment, il y avait aussi des pirates chrétiens qui prenaient des esclaves musulmans et qui les enfermaient dans leur propre bagne. Chacun ayant pris l'habitude, et c'est vraiment commun au XVIIe siècle, d'utiliser le même mot.
Alors le mot bagne, on le retrouvait plutôt dans la littérature, hein, chez Victor Hugo jusqu'à Jean Genet, et d'ailleurs vous travaillez y compris sur la littérature, sur les littératures qui ont traversé ces siècles de bagne. En 1953, le bagne de Guyane va fermer finalement ses portes. Donc,
Si je puis me permettre, il a fermé déjà depuis un moment. Ce sont les derniers qui s'y trouvent, voilà, que l'on finit de rapatrier en 1953.
Parce que la décision a été prise 15 ans auparavant.
Oui, c'est ça, la décision de ne plus envoyé de condamnés aux travaux forcés en Guyane est prise par un décret-loi du Front Populaire en 38.
Alors on peut considérer cela comme la date de fin de cette histoire de bagne. Comment ça commence, Michel Pierre ?
Ça commence, vous le soulignez précédemment, il y a une longue durée où on a la peine des galères qui est celle de contraindre le corps, de faire en sorte que le travail forcé, en l'occurrence sur les galères, en quelque sorte rachète un certain nombre de fautes commises précédemment. Et c'est l'utilisation d'une force physique. Comme disait Voltaire, un pendu, ça sert à rien. Par contre, un condamné sur des galères ou travaillant dans des arsenaux des ports, ça peut servir à quelque chose. Et puis, quand on arrête au milieu du XVIIIe siècle d'utiliser la galère comme navire de combat en particulier, voire navire de prestige, on va quand même garder les galériens. Ils vont conserver leur nom du reste, plus ou moins, mais ils ne vont plus travailler sur des navires ou ramer sur des navires en mer. Du reste, ce n'était qu'une minorité d'entre eux, de ces condamnés, qui le faisaient. Et on va les enfermer, comme vous le disiez, dans un grand port méditerranéen, puisque la galère était surtout un navire de Méditerranée, à Marseille et surtout à Toulon. Et puis, sur l'Atlantique, les nouveaux condamnés aux travaux forcés vont être amenés à travailler dans les arsenaux de Brest et de Rochefort. Donc, ce sera les trois grands centres pour ces condamnés, qui sont des condamnés aux peines les plus lourdes des codes de l'époque. Donc on a cette longue filiation, galère, bagne portuaire, et fort logiquement, quand on passe à des bagnes extérieures à la France, eh bien c'est le ministère de la Marine et des Colonies qui va s'en occuper. Donc on a une logique, on comprend parfois assez mal, mais c'est important pour comprendre cette longue histoire. L'histoire des bagnes est une histoire qui est liée à la marine. On a galère, bagne portuaire et bagne coloniaux. La meilleure preuve, c'est que quand les forçats, donc les condamnés aux travaux forcés, vont un temps partir vers la Guyane pendant un siècle et aussi un temps vers la Nouvelle-Calédonie, ils sont confiés au ministère des colonies. Pas le ministère de la Justice ou le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de ces bagnes coloniaux, comme leur nom l'indique, c'est le ministère des colonies.
Alors c'est ça qui est passionnant, parce que je dis qu'il y avait un regard, alors c'est un travail d'historien, mais aussi avec un regard de sociologue, pour parler de ces époques-là à partir des bagnes, mais il y a aussi, et tout de suite d'ailleurs, une logique économique à cette gestion des prisonniers.
Oui, il y a une logique économique, c'est-à-dire essayer d'utiliser cette main-d'œuvre, et puis à un moment, on s'aperçoit au milieu du 19e siècle que cette main-d'œuvre, finalement, elle coûte cher, qu'un condamné aux travaux forcés, ben, la première chose qu'il va essayer de faire, c'est de pas travailler et certainement pas à des travaux trop pénibles. Donc dès que le garde-chiourme s'éloigne, bon ben la rentabilité et la productivité du forçat est pas terrible. Donc on va s'imaginer à partir des années 1850 que ces forçats des ports, qui peuvent être remplacés par de la main-d'œuvre libre, qui en plus avec l'exode rural coûte moins cher qu'un condamné à entretenir, on va se dire que l'utilisation de cette productivité, de ces bras disponibles, peut l'être dans des colonies, puisqu'ils sont finalement peuvent être aisément remplacés dans les ports, eh bien on va les envoyer au loin, où ils peuvent peut-être travailler à défricher les forêts, en l'occurrence en Guyane, à participer au développement d'une colonie qui est quand même quelque peu en déshérence au milieu du 19e. C'est ce qui va faire le choix de la Guyane pour ces condamnés, une fois qu'on a décidé de plus les voir dans des ports en France. Il y a aussi une autre logique que la logique économique dont vous parlez, il y a une logique en quelque sorte d'éloigner de possibles foyers de contagion sociale, c'est-à-dire d'avoir des concentrations de plusieurs milliers de condamnés à Brest, Rochefort et Toulon est un moment considéré comme étant presque un peu inquiétante par rapport aux ouvriers libres qui les côtoient toute la journée. Donc on les éloigne, on les exile et on essaye...
Voilà, ça c'est la logique de la gestion sécuritaire.
Gestion sécuritaire, gestion... Bon, si on peut utiliser les bras, ben tant mieux, hein, c'est bien précisé. L'article de la loi de 1854 qui va justement préciser la manière dont les condamnés aux travaux forcés doivent exécuter leur peine, l'un des articles précise « Les condamnés seront utilisés aux travaux les plus pénibles de la colonisation ». Donc c'est leur boulot, plus dans les bagnes portuaires, mais en l'occurrence et au début en Guyane.
Alors que va nous dire cette histoire des bagnes sur l'évolution de la France, sur l'évolution des républiques françaises, de la justice en France ?
Ce que j'ai tenté dans ce livre, c'est de pas seulement évoquer les bagnes, ou travailler sur les bagnes coloniaux, qui est un sujet que j'avais déjà abordé dans deux précédents ouvrages, mais d'essayer de voir l'ensemble du système. L'ensemble d'un système pénal qui s'attache à trouver des solutions à la délinquance des mineurs, et donc là aussi qu'on va enfermer sur le territoire national dans des colonies agricoles et pénitentiaires, mais là on va rester en métropole, mais on va quand même prendre l'habitude d'appeler ces institutions qui vont être extrêmement nombreuses, soit privées, soit publiques, on va les appeler des bagnes d'enfants. Comment on a ce système pour les mineurs, le système pour les adultes dont on parlait précédemment? Et j'ai voulu aussi aborder le cas des bagnes militaires, c'est-à-dire la justice militaire, dont nous avons gardé au moins un terme géographique dans notre longue mémoire, qui est Tataouine, l'endroit où était concentré l'un des bataillons d'Afrique. Donc c'était vraiment l'idée de rassembler ces trois univers qui sont très souvent extrêmement proches. On voit comment des enfants des colonies agricoles et pénitentiaires de France font, hélas, la clientèle aussi des bagnes de Guyane. Donc on a des centaines d'itinéraires absolument terribles, des malchanceux du destin, qui commencent à 12 ans dans une amétraie, puisque vous évoquiez Jean Genet, et puis qui vont partir ensuite en Guyane avec parfois une étape par les bagnes militaires d'Afrique du Nord. Donc c'est toute cette histoire pénale qui m'intéressait d'approfondir, en particulier sous la Troisième République. Comment la Troisième République va tenter de codifier, de faire énormément de textes et de contrôler une société pour s'implanter. C'est-à-dire la République est un régime fragile encore dans les années 1870-1880 qui craint un retour de la monarchie. Pour éviter des troubles, pour éviter effectivement que la monarchie ou que le retour d'un roi possible ne redresse la tête, précédemment coupée, et bien il faut contrôler la société. Il faut faire en sorte de rassurer les possesseurs, de rassurer la paysannerie, de rassurer la petite et moyenne bourgeoisie qui commence à adhérer au système. Il faut donc que la loi et l'ordre soient deux termes absolument à l'égal de liberté, égalité, fraternité. Il y a la devise républicaine et puis il y a vraiment toute cette volonté de faire en sorte que le progrès ou l'idée de progrès soit partagée par tous et ceux qui s'en éloignent par la délinquance, par le refus de ceci ou de cela, eh bien la loi doit s'appliquer, et la loi doit s'appliquer fermement, sinon extrêmement durement. Et c'est peut-être ça qui m'a refrappé dans ce travail, c'est de voir comment la France de la Troisième République a été une sorte de régime de fer vis-à-vis des déviants de la loi commune.
Cette longue histoire qui va de 1748 à 1953, le temps des bagnes pour reprendre le titre de votre ouvrage, Michel Pierre, c'est une histoire, et vous expliquez très bien, Michel Pierre, comment on peut analyser carrément l'histoire française à travers cette histoire-là. Et s'il fallait parler aujourd'hui de tous ces débats déjà posés à l'époque et qui restent d'actualité, les enfants de la petite roquette, par exemple, ce texte merveilleux de Victor Hugo que vous citez dans votre livre, répond aussi à la question qu'on se pose encore aujourd'hui, par exemple, pour aller très vite, entre les partis de droite et les partis de gauche, faut-il emprisonner les enfants? À partir de quel âge? Quel effet ça peut faire? Bon, bah, ce débat, ça fait longtemps qu'il est posé.
Oui, ce sont des débats. Alors, pour les enfants, c'était effectivement, faut-il mieux qu'ils soient enfermés de manière totalement individuelle et dans le silence le plus absolu, avec un temps de travail, comme c'était le cas de la prison de la petite roquette, au risque, comme on s'est rendu compte, de rendre les enfants totalement fous dans des conditions de vie qui nous semblent aujourd'hui hallucinantes.
Aujourd'hui, on dit radicalisé, plus radicalisé.
Oui, c'est absurde, évidemment. Ou bien mettre les enfants dans des situations d'être de petits bannières, dans des colonies agricoles, ce qui est à peu près également sans effet. Ce qui est frappant en étant sur la longue durée, mais c'est toujours le bonheur de l'historien, si on peut dire, quand il est sur la très longue durée, c'est qu'on voit comment ce que vous évoquez de la période contemporaine vient de longues décennies, voire de longs siècles, j'allais dire presque d'échecs. C'est-à-dire la France fait partie de ces pays où je trouve dans la longue histoire du système pénal et du code, alors marqué par le code de 1810, la France n'a jamais été très en avance sur des solutions innovantes sur les problèmes de la peine et de l'exécution de la peine.
Et ça continue.
Et ça continue. Moi, ce qui m'a frappé, puisqu'on nous parlions des bagnes coloniaux, nous allons Napoléon III va ouvrir la Guyane en 1852-1854 pour envoyer des bagnards, à peu près au moment où l'Angleterre arrête d'envoyer les siens en Australie. Donc ça m'a frappé. On n'en voit plus, la Grande-Bretagne n'en voit plus de condamnés, de convicts en Australie dès les années 1860, alors que c'est le début pour la France de transportation de ces condamnés. Et on voit comment aussi, entre les deux guerres mondiales, en Belgique, voire même en Autriche, il y avait des expériences sur les problèmes de la délinquance des mineurs qui étaient menées avec beaucoup plus d'intelligence et d'humanité que ça ne l'était en France. On a l'impression que ce retard pris en particulier au XIXe siècle et en grande partie au XXe siècle, ce retard pris sous la Troisième République n'a pas été complètement compensé. L'a été dans la réflexion, en particulier avec l'ordonnance de 1945 sur la délinquance et la répression pour les mineurs, mais pour des cas qui arrivent aujourd'hui, et vous parliez des problèmes par rapport à ceux et celles qui ont pu se radicaliser et rentrant dans des débats d'aujourd'hui, peut-être faudrait-il mieux regarder le passé, mieux approfondir. Je suis assez frappé par voir comment de jeunes magistrats ou de jeunes avocats d'aujourd'hui ont une totale ignorance de cette époque de la répression de la délinquance juvénile ou bien du temps des bagnes, justement.
Alors, pour terminer justement cet entretien, Michel Pierre, vous êtes historien, auteur entre autres de cet ouvrage que je recommande vivement parce que il parle du passé, mais il parle surtout aussi du présent, le temps des bagnes, 1748-1953 chez Talendier. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale sur France Culture, hein, une semaine du premier tour des élections législatives et après l'élection d'Emmanuel Macron. Alors qu'on s'attend d'ailleurs à une assemblée renouvelée avec des nouveaux visages. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire une politique nouvelle? Est-ce qu'on peut envisager la politique autrement? Vous, alors je vous pose cette question, Michel Pierre, parce que vous avez été diplomate, hein, et des deux côtés de la Méditerranée, aussi bien en Italie qu'en Algérie.
Oui, effectivement, l'historien se mêlant de la chose publique aujourd'hui, c'est toujours un petit peu délicat parce que entre les exercices de divination et puis celle de donneur de leçons, je m'en garderai bien. Mais non, ce que je peux simplement dire, c'est que l'histoire est quand même et reste une discipline utile. Et plus un homme politique, ou homme ou femme politique, bien évidemment, ont à prendre des décisions, je trouve que plus elle s'appuie sur, ou plus la décision pousse sur le terreau de l'histoire, mieux en général on s'emporte collectivement et dans les conduites à mener. Alors, pour ce qui touche de la géopolitique, là on est dans un autre domaine, c'est une autre... Ça a été une autre vie pour moi. Mais oui, vous avez raison. C'est vrai que l'un des enjeux va être de poursuivre, de renouveler éventuellement les contacts avec le Maghreb, comme on l'a vu aussi par rapport à l'Est de l'Europe et à la Russie, le Moyen-Orient. Bon, ce sont là aussi, appuyons-nous sur l'histoire.
Merci beaucoup d'être passé ce matin, Michel Pierre.
Merci à vous.
Le temps des bagnes, je rappelle, c'est le titre de votre ouvrage. Une journée spéciale sur France Culture, comment faire la politique aujourd'hui. Et nos programmes continuent avec Émilie Chaudet. Bonne journée, à demain.